Sans contrôle, le podcast 100% excellente.
Loco Pelleros, Pelleros Loco, c'est fabuleux.
Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
Autour de la table... David Philippot, West France. Philippe Audouin, RTL. Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West.
Salut les amis, salut Philippe Audouin.
Salut Simon.
Le FCN corrigé par le Stade Rennais à la maison, ça l'a rendu malade le Philippe, il avait une petite mine à la Beaujoire samedi.
Il était pas bien, ouais.
Oh, il était pas bien, c'est le supporter
pas de bonne humeur,
qui...
t'étais vraiment
en fait,
pas
j'ai,
agréable.
J'étais malade la nuit d'avant, en fait, faut pas se tromper.
Ah bon, ah ouais, rien à voir.
C'est pas ça qui m'a rendu malade.
Non. Si, tu sentais mal ce match, et t'avais raison, parce que ça s'est pas bien passé du tout. Salut Jean-Marcel Boudard.
Salut tout le monde.
De retour de Suisse, Jean-Marcel, pour gérer sa banque sur place, deux ou trois soucis perso de rétrocommission avec deux transferts. Bon, c'est aussi tout à son honneur, il a allié l'utile et l'agréable pour suivre la demi-finale de Youth League.
C'est vrai, et les camps sont bons, m'ont manqué, m'a rassuré. En tout cas, sur mes
oui, j'imagine ouais, bien. Ouais. Tu nous raconteras tout à l'heure la Youth League.
En tous les cas, c'est pas
Jean-Marcel.
Le podcast qui m'enrichit. Hein.
Et c'est reparti avec en tous les cas. Voilà. Allez, en tous les cas.
David Philippot, bonjour.
Bonjour.
Le nouvel ami des fumigènes en tribune Jules Verne. David s'est même pris au jeu des
spectacles.
Des selfies
ouais,
fumis.
Une photo.
Il
ouais,
a fait un selfie fumi.
Ouais, j'ai vu, ouais.
Magnifique.
Ça craquait partout, la Beaujoire. En tribune, puis sur le terrain aussi. Ça a craqué.
Ça a surtout craqué sur le terrain.
Bien craqué côté nantais. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute.
Je sens que ce soir, je vais conclure.
Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait deux jours que là, t'es déjà sur un coup.
Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
Le FC Nantes et le Jean-Claude Duss de la Ligue 1. Sur un malentendu, ça gagne parfois, comme au Havre il y a une semaine. Mais la réalité, c'est une succession historique de râteaux. On en parle dans ce 34e épisode, saison 5 de Sans Contrôle. Le FCN, humilié 3-0 à domicile par le voisin Rennais, pouvait-il en être autrement? Comprenez-vous, messieurs, les choix ultra-défensifs de Comboiré, son sentiment d'impuissance exprimé après la rencontre? Benny Traoré, c'est quoi le problème? Pourquoi l'Ivoirien arrivé cet hiver est devenu un quatrième voire un cinquième choix devant? Enfin, zoom sur la série de la honte qu'on évoquait à l'instant, 8 défaites consécutives à domicile. Les Canaries jouent-ils leur survie en Ligue 1 à Montpellier? C'est le dernier match contre une équipe du bas de tableau avant une fin de championnat dantesque. Retour de Kadewere, Ablin, est-ce que ça peut changer les choses? Enfin, on fait le bilan de la Youth League. Les jeunes Canaries ont été sortis au tir au but en demi-finale. Qu'a-t-il manqué pour aller au bout? Quels sont les joueurs de cette génération dorée que l'on verra bientôt chez les pros? Allez messieurs, installez-vous tranquillement dans votre studio It West. On est là, on est à la maison, on est bien. Et nous, quand on reçoit, on évite les fessées. Sauf si c'est demandé gentiment.
Eh hey, oh, faites pas la gueule. Vous êtes contents quand même, non?
Hey!
Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Retour sur une nouvelle soirée de la honte à la Beaujoire pour le FC Nantes, corrigé 3-0 par le voisin Rennais dans le derby breton.
Ce matin, à l'ouverture du marché, on était à 149 dollars la tonne. On est mal.
Comment ça, on est mal?
Ah là, on est mal. On a encore chuté d'un dixième de point. Tu leur donnerais qu'ils n'en voudraient pas.
Et t'as un casse-couille qui est toujours pas revenu.
On est mal.
Extrait de... Oui, j'ai fait un peu dans le ciné.
Oui, mais là, c'est pour ça on est perdu là.
Patrick Timsit.
Patrick, ouais, c'est
bien
ça.
Bien sûr, un indien dans la ville. Oh, ah ouais, un indien dans la ville quand même. On est mal du côté
c'est
de
là où il y a chacun sa route.
Exact, ouais, exact. Ouais, tonton David.
Tonton David.
Exact. Ouais, t'as dû en souffrir ça dans ta jeunesse, non, de tonton David.
Il y en a certains qui font encore la blague.
On est mal du côté du FC Nantes. La zone rouge est revenue à 3 points derrière. On en parlera tout à l'heure du danger au classement. Avant cela, on remue le couteau dans la plaie rouge et noire. Cette défaite face à Rennes était-elle inéluctable? Pouvait-il en être autrement? Écoutez d'abord le fatalisme d'Antoine Comboiré après le match et on en débat derrière.
Il faut avoir été sur un terrain pour comprendre. C'est pour ça que je dis, c'est compliqué ce que je vous dis là, mais c'est ça. Ils ont essayé, puis quand tu prends le premier but et tu sais que tu n'as pas la possibilité de marquer derrière, bah, tu lâches un peu. Et en plus, quand tu es en difficulté en ce moment à domicile, mais c'est la vérité de ce match. Et puis après, moi, j'ai qu'une envie, c'est bien analyser. Cette semaine, on va faire une séance vidéo avec tout le monde. On va pouvoir analyser, travailler après pour corriger et puis surtout aller faire un match vendredi prochain contre Montpellier. Celui-là, il est important. Celui-là, on l'a essayé. Ils sont plus forts que nous, point barre. Voilà, il n'y a rien à dire.
Ils sont plus forts que nous, point barre. Il n'y avait rien à faire contre le Stade Rennais. Circuler, c'est ce que nous dit Comoré après le match. Philippe.
Moi, j'interprète plus ça comme on passe à autre chose parce que je pense que cette défaite a fait très mal. C'est la 9e de suite, la 8e en championnat, la 9e de suite à domicile. C'est un derby. Il y a un score lourd à l'arrivée de 3-0. Les joueurs, je pense qu'ils ont la tête sous l'eau samedi soir après le match. Et Comboiré, il veut vite passer à autre chose pour éviter les répercussions morales.
Tu peux passer à autre chose, mais t'es pas obligé de dire ça. Non, je sais pas.
Bah, ce sont des éléments de langage quand même. Ouais, franchement, on a l'impression qu'ils sont tous mis d'accord pour dire ça, les mecs.
Alors, ils se sont tous mis d'accord. Hein. Ils s'étaient passé le mot très clairement, parce que Palois a dit la même chose, Sissoko a dit pareil. J'ai pas trouvé, surtout en première période, on n'a pas vu un Rennes absolument injouable, loin
du
de
tout,
là.
Du tout.
Rennes a quand même perdu ces dernières semaines chez lui contre Lorient, contre Toulouse.
Contre Toulouse, 4 défaites d'affilée avant d'arriver à Nantes.
C'est une équipe qui restait sur 4 défaites d'affilée. C'est une équipe qui était très fébrile en première période.
C'est une équipe en crise.
Complètement.
Il y a eu un énorme coup de gueule, on l'avait dit, le président Cloaret quelques jours avant le match. C'était pas bien, les Rennais.
C'est surprenant. Moi, je ne m'attendais pas à entendre les joueurs et Comboiré dire ça. Et puis maintenant, on en parlera tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils vont dire avant de jouer contre Brest, Monaco et Lille?
Ils vont dire c'est plus fort, on peut rien faire.
Ils vont dire ça.
Non, mais avant le match, l'état d'esprit n'était pas celui-là. Il ne faut pas confondre ce qui est dit à chaud juste après le match et l'état d'esprit d'avant-match.
Ça, je me doute bien. Ouais.
Donc, avant le match, Nantes était conscient qu'il y avait un match à jouer, que Rennes n'était pas au mieux et que même s'il y avait des absents, peut-être qu'il y avait possibilité de grappiller quelque chose. Mais après coup, vous dites, ça c'est fait, on oublie vite parce que c'est très mauvais.
Même si moi je comprends ce que veut dire Philippe, je trouve que le discours il est inadapté au contexte, il est inadapté à la réalité déjà de ton adversaire qui lorsqu'il arrive ou ce qui se présente à la Beaujoire, et c'est pas non plus un adversaire surpuissant dont tu dois avoir peur, c'est un adversaire qui est en plein doute. Tu peux même lui mettre la tête sous l'eau, c'est inadapté parce que c'est un derby, et normalement un derby même lorsqu'il y a un écart important sur le terrain, on se dit que quand tu as du caractère et quand tu as autre chose, tu peux réduire cet écart-là en tous les cas.
Tu compenses en mettant de l'intensité, par exemple.
Voilà,
ce derby.
Et puis, c'est inadapté au regard de la situation du club qui n'est pas sauvé. Et aujourd'hui, tu peux pas lâcher des matchs parce que c'est le sentiment, en tous les cas, qui donne. Tu peux pas, d'ailleurs, et en plus, je pense que c'est le sentiment aussi qu'on a eu sur le terrain, notamment dans la deuxième mi-temps. Tu ne peux pas lâcher des matchs sous prétexte que ton adversaire est plus fort.
Je ne crois pas que c'était l'attitude. À 25 minutes de la fin, à 0-0, franchement, je ne vois pas Rennes marquer un but. Il n'y a pas d'occasion pour Rennes excepté un éclair de Désiré Doué en première mi-temps. Il n'y a pas une occasion pour Rennes.
Mais
en deuxième mi-temps, il y en a trois qui n'ont pas pour Nantes.
Non, mais ce que je veux dire par là,
c'est qu'à 0-0, contrairement à ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu viens de dire, à 0-0 à 25 minutes de la fin, Nantes n'a pas lâché le match.
Enfin, Nantes est inoffensif aussi. Il y a des situations en première.
Il dit pas que Nantes.
C'est Comboiré qui dit ça.
Moi, je m'intéresse à ce que venait de dire.
Je dis qu'il y a un fatalisme. Il y a un fatalisme en tous les cas pour expliquer la défaite qui, moi, m'interpelle. Puisque normalement, par les raisons que j'ai évoquées, tu dois pas en arriver à ce discours-là. Tu dois être éventuellement déçu. Alors même si tu veux passer à autre chose, je trouve en tous les cas que tu dois proposer d'une part autre chose et tu dois pas tenir ce discours-là après match.
On va rentrer dans le contenu de la proposition de Comboiré, de la compo. Là, je suis sur ces éléments de langage d'après match. Franchement, on le croit pas une seule seconde, Jean-Marcel. La vérité, c'est que c'est de la com et qu'il est dégoûté d'avoir perdu. Il nous le dit après, mais on pouvait pas le gagner. Rennes est trop
fort. Dans les circonstances, je pense que si tu perds 1-0, il nous tient pas le même discours.
Bien sûr.
Il aura dit que son équipe s'est bataillée jusqu'au bout, qu'ils ont eu des situations, mais qu'ils ont mal exploité. Parce que là, il parle même pas éventuellement de la première mi-temps, de ce qu'aurait pu se produire en étant un peu plus piquant et mordant et en jouant mieux des situations.
Qu'ont dit les supporters? On a regardé ça avec David dans la préparation du podcast. John, par exemple, qui tweet, Comboiré a souvent martelé que tous les matchs étaient difficiles, qu'il fallait essayer de taper les gros comme les petits. Là, ouais, après Rennes, il dévalorise tout, même la victoire à Nice, en énumérant les absents côté niçois. On n'est pas loin du désastreux équipe de merde d'il y a un an après Auxerre. Est-ce qu'il a fait une erreur de com? Et Nice, c'est vrai qu'en conf, on lui a dit, Antoine, vous êtes allé gagner à Nice, qui est mieux classé que Rennes, donc qui est dans le top 5 de la Ligue 1, en ayant des ambitions, en mettant des joueurs offensifs. Vous avez proposé autre chose. Ah non, c'était un petit Nice, il n'y avait pas Thuram, il n'y avait pas machin.
Il a minimisé la victoire à Nice. Enfin, c'est quand même assez étonnant. Le discours de Comboiré et des joueurs, mais surtout de Comboiré, était très très étonnant.
Non, mais je crois que il n'est pas étonnant, et là je rejoins Philippe, mais en tous les cas, ce n'est pas les mots qu'il fallait employer pour l'expliquer, pour le justifier. Effectivement, c'est une défaite qui fait très mal au regard de ta situation et puis au regard de l'enjeu face à un derby. C'est-à-dire que là, pour le coup, tu prends 3-0 en une demi-heure et tu sens même que si le match il se poursuit, tu peux en prendre 4, 5,
sans
6.
Sans avoir rien montré avant. Sans avoir rien montré avant.
Et en plus, avec des défaillances individuelles et collectives qui sont troublantes et perturbantes par rapport à ce que tu as vu sur les matchs précédents.
Ouais,
et
regarde encore, ce que tu dois proposer. Est-ce que c'est pas dans la lignée du Havre?
Donc
finalement,
t'as surtout pas envie qu'on s'interroge.
Parce qu'au Havre, tu tombes sur une équipe qui est actuellement à le niveau Ligue 2. Le Havre est complètement à la rue et c'est finalement dans la lignée.
Et tu gagnes sur un malentendu, je l'ai dit dans le générique. Tu gagnes sur un malentendu. Ouais, ouais, tu peux perdre 2 minutes avant
le
match.
Et avant, c'était la deuxième période contre Lyon où t'es pas bon non plus. Donc là, ça fait 5 mi-temps d'affilée où le FC Nantes est en dessous de tout, quoi.
Je voudrais faire écouter 2 autres réactions par rapport à ce que tu as dit, Philippe, tout à l'heure. Tu as dit c'est une réaction à chaud, peut-être qu'il ne le pense pas et tout. Pour moi, ce n'est pas une réaction à chaud. La réaction à chaud, c'est celle de Pedro Chirivella qu'on va entendre. Mais ensuite, il y a le vestiaire. Ensuite, il y a ces éléments de langage qui sont distillés. Et là, les joueurs et Comboiré, à froid, même si c'est une heure après, à froid, arrivent avec les mêmes éléments de langage. Palois, d'abord, tu l'as évoqué. Pour lui aussi, Rennes était plus fort.
C'est une équipe qui est meilleure que nous. Après, ce qui est dur, c'est le 3-0. Voilà, comme je dis, ils sont meilleurs que nous. Vous voulez faire quoi? C'est pas le même budget. C'est des attaquants qui sont entre 15 et 20 millions chacun. Et ils en ont 6 ou 7. Donc c'est comme ça. Ils sont meilleurs, on assume. Et maintenant, il faut bien se préparer pour Montpellier.
Ils sont meilleurs, ils ont des joueurs qui coûtent plus cher. Mais franchement, mais l'équipe nantaise, alors on a regardé ça et les supporters m'ont envoyé ça aussi. Nantes a la 7e masse salariale. On a un joueur qui est à 300 000 euros, il y a 100 000 euros de moyenne de salaire chez les joueurs. S'ils commencent à regarder combien coûte chacun à chaque adversaire, à ce moment-là, vous ne jouez pas, il y a des joueurs à 15 millions en face, on ne joue pas. Qu'est-ce que c'est que cette fausse excuse? Enfin, parler d'argent, franchement, je comprends pas. Mais ou alors le stade brestois, ils peuvent rigoler tous les week-ends.
Oui, non, c'est vrai. Maintenant, je pense vraiment que c'est une façon de se protéger et de préparer la suite en se disant on va pas continuer de s'enfoncer plus qu'on ne laisse ce soir.
Il y a 3 adversaires de calibre supérieur.
Dans un contexte normal, et s'il n'y a peut-être pas non plus le passif de l'année dernière, tu as envie de sortir la fameuse décla d'Auxerre. On est une équipe de merde qui n'a rien montré. Et je pense que ça pèse, c'est-à-dire qu'il fait gaffe aussi, je pense, à ne pas perdre son groupe. Parce que, comme tu l'as dit, première réaction, c'est celle de Pedro Chirivella.
Je le laisse si tu veux, Jean-Marcel, et je te laisse la parole derrière.
Je te lance, je suis un homme de radio.
Écoutons Pedro, il présente ses excuses.
C'est la honte. La deuxième mi-temps qu'on a joué, ce n'est pas à l'heure de rendez-vous. Il va falloir qu'on se dise les choses, qu'on s'explique ce qui a passé en deuxième mi-temps. Je pense que ce n'est pas normal. Je m'excuse aux supporters, à tous les stades qui sont venus nous soutenir. C'est de la merde. C'est de la merde ce qu'on a fait.
Comment vous expliquez les deux visages de Nantes? Parce qu'en première, c'est vrai que bon, vous n'arrivez pas à être dangereux, mais en revanche, vous maîtrisez plutôt bien cette équipe rennaise.
Je sais pas, peut-être on s'est fatigué en première mi-temps, on a beaucoup couru. Mais à chaque fois, dès qu'il y a un but, on dirait qu'on arrête de jouer. C'est pas la première fois. Je sais pas, j'ai pas de mots.
Il n'a pas les mots, Pedro Chirivella, sur Prime Video.
Oui, je pense que c'est ça, en fait, que les joueurs ont envie de se dire après ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu des attitudes, des comportements qui sont agaçants et je comprends son énervement. Et je pense qu'Antoine Comboiré, il fait attention dans le vestiaire à ce que ça n'explose pas, en fait. Parce que là, il y a les conditions, en tous les cas, au regard du scénario du match et puis du contenu du match, pour que on se dise 2-3 vérités qui peuvent être cinglantes et qui peuvent être malvenues dans la période qu'on va aborder.
C'est quand même un derby, les gars.
Tu as reparlé de ce qu'il avait dit l'année dernière. Qui avait laissé des traces. Équipe de merde, ça avait laissé... Contrairement à ce qu'il a pu dire, parce qu'il avait dit non, il n'y avait pas eu de soucis.
Oui, mais il avait reconnu que c'était une parole malheureuse.
Mais voilà, dans le vestiaire, ça avait laissé beaucoup de traces. Les joueurs n'avaient pas du tout apprécié
c'est pas
cette
la même
phrase
chose.
D'équipe de merde. Non, mais.
Parce que, en disant
très clairement,
de merde,
il les protège. Je crois que c'est Philippe qui dit. Voilà. Il les protège un peu.
Il les protège un peu. L'an dernier, vous l'aviez beaucoup critiqué par rapport à ça également.
Évidemment.
Donc aujourd'hui, je trouverais ça bizarre.
Non, mais critiquer. Philippe, tu peux trouver un juste milieu. Tu peux trouver un juste milieu, Philippe.
Non, mais c'est surtout que c'est pas la même chose. Excuse-moi. Quand tu dis équipe de merde, tu te mets à distance de ton équipe et tu dis, en gros, j'ai cette équipe, c'est une équipe de merde.
Ou alors tu cherches à la piquer, à la faire réagir.
Peut-être. En l'occurrence, il peut dire on a été nul, j'ai été nul dans ma compo. C'est un derby à domicile 0-3, c'est la honte. Et il peut venir en colère contre lui-même et contre son équipe. On doit faire mieux, on est désolé, on a été lamentable. Au lieu de ça, il dit non, franchement, on pouvait rien faire, ils étaient plus forts.
Il y a cette explication. Et puis il y a surtout, pour le coup, je trouve que ce discours d'équipe de merde était plus adapté à ce qu'on a vu samedi dernier. Ce qu'on a vu à Auxerre, où l'égalisation, elle joue sur pas grand chose. Il passe à côté d'une première mi-temps cata, mais notamment un premier quart d'heure. Mais après, ils reviennent dans le match. Et si vous vous souvenez, ils font une attaque défense. On aura dit un match de hand, la deuxième période à Auxerre. à la Baie des Champs, ce qui n'est pas le cas du tout de ce qu'on a vu là, où là c'était encore plus insignifiant et plus inquiétant.
Script Jardinier nous dit « Pedro est resté digne, lui seul, que ce soit son attitude sur le terrain, puis après le match en allant saluer les supporters, et enfin avec sa déclaration où il a clairement dit les choses. Ce qu'on a vu samedi est honteux, ce qu'a dit Comboiré l'est tout autant. » On a plein de messages comme ça. Franchement, les supporters n'ont pas aimé hein, les déclarations d'après-match, c'est pour ça qu'on s'arrête longuement sur ces déclarations-là. On va parler de la compo et de cette fois de ce que le FC Nantes a fait sur le terrain. Comprenez-vous les choix ultra-défensifs de Comboiré? On va rappeler, Philippe, que le 11 de départ était un 11 avec le seul Mostafa Mohamed comme attaquant de profession, j'ai envie de dire. Mollet était dans ce 4-3-3 à gauche.
À gauche, en plus.
Sissoko à droite. Ouais. Ce sont des milieux récupérateurs ou offensifs, mais en tout cas pas des attaquants. Donc Nantes a joué avec 10 éléments à caractère non offensif.
Et en tout sachant qu'au bout de 20 minutes de jeu, t'as quand même Kader Bamba qui rentre.
Oui.
Mais c'était pas l'intention de départ.
Parce que Douglas Augusto se blesse, donc oui. il fait un changement et il change de système d'ailleurs.
Il passe en 4-2-3-1.
En 4-2-3-1, alors qu'il démarre en 4-3-3. Et d'ailleurs, c'est surprenant, puisqu'il a gagné au Havre en 4-2-3-1. Il a gagné à Nice en 4-2-3-1. Contre Lyon, première période où c'était pas mal, c'était un 4-2-3-1. Et il a changé de système. Tout ça parce qu'il manque Ablin. On ouais. a l'impression qu'Ablin est devenu le nouveau Zinedine Zidane du FC Nantes. Ouais. Il est devenu totalement indispensable. Et il change de système, il passe en 4-3-3 avec...
Ce qui n'est pas faux non plus.
Il manque Ablin et Kadewere.
Et Kadewere, mais Kadewere n'est pas là sur les derniers matchs. Non
il manque,
plus.
Il
c'est
manque,
pour ça que j'en parle
il
pas.
Mais il manque Benny Traoré, sur lequel il ne compte plus. On va en parler dans un instant. Ouais.
Voilà, c'est ça. Si,
et
si
Oustre et Apua.
Si vous mettez les attaquants, il vous reste qui? Apua.
Apua, Bamba.
Et Traoré. C'est pas non plus scandaleux.
Je sais pas, mais Bamba, on est tous d'accord pour dire qu'il peut pas faire un match entier. Donc si la stratégie, c'est de se dire... dans un premier temps, on va être solide et Bamba, peut-être qu'il peut nous aider dans la deuxième partie du match en entrant en cours du match. Je trouve pas ça incohérent. C'est déjà arrivé par le passé et on sait qu'il peut pas tenir tout un match. Donc je trouve pas ça incohérent. Il y avait pas l'embarras du choix. Apua, c'est pas une garantie non plus.
Il y a pas une question de garantie. Il y a une question au moment de faire jouer des attaquants et d'avoir un équilibre d'équipe qui te permet de contre-attaquer.
C'est déjà pas arrivé que ça parce équipe... que t'as des moi je trouve que t'as des contre-attaques en première mi-temps. Enfin j'ai en
il y en
image.
A une.
Ah bah oui mais il y en a deux où c'est Mostafa Mohamed qui les joue mal et à chaque fois il y a je crois que c'est Samuel Moutoussami qui est tout seul côté gauche et qui s'arrache les cheveux. Que le ballon ne lui arrive pas, puisqu'il tente dans un angle quasiment impossible. Ils ont deux énormes situations. En fait, au-delà de la composition de départ.
Deux énormes situations, je suis
mais
désolé.
Si, mais si,
tu parles de quoi? La frappe de Mollet de l'extérieur de la surface sur le centre de Sissoko?
Non, je parle de la frappe de Mohamed qui va au-dessus, alors que lorsqu'il s'y voit, il décale. Il a Moutoussami tout seul dans la surface, et je crois qu'il a Mollet au milieu. Il ne le fait pas, il va tout seul. Mais non, en fait, ils ont récupéré.
Franchement, ils subissent de A à Z. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que Nantes se soit procuré des occasions.
Lorsque le FC Nantes a embêté le peu de fois, en fait c'est arrivé deux fois en première mi-temps je crois, c'est lorsqu'ils ont été récupérés des ballons hauts par le pressing ou ils ont récupéré des ballons dans les pieds suite à des pertes de balles de Rennes et ils ont mené des comptes, sauf qu'ils ne sont pas allés les chercher aussi fréquemment qu'ils auraient dû le faire avec cette composition-là.
On parle bien du même match.
Non, franchement, Jean-Marcel, j'ai pas vu le même match que toi. Ils étaient le cul sur le but de la fond. Il y en a une, mais on s'est emmerdé pendant 45 minutes. Et à la pause, on s'est tous dit, ce FC Nantes-là, sans ambition, qui refuse le jeu, ne mérite rien d'autre que d'en prendre une à la fin par le Stade Rennais, qui joue au handball.
C'est pas parce que tu t'emmerdes que t'as pas de situation. Il y a aussi des situations que tu peux mieux jouer et que si t'as un peu de talent, et notamment Mostafa Mohamed, s'il est un peu moins égoïste,
t'as un peu moins de talent.
Est-ce que c'est le profil de ces joueurs-là de jouer à la contre-attaque? Tu mets même pas de vitesse.
Tu joues avec 5 milieux de terrain.
T'as pas de vitesse.
T'as aucun joueur qui est capable de déborder. Si Bamba au bout de 20 minutes, parce qu'il entre. D'ailleurs, il apporte un tout petit peu, je trouve, un peu au début, Bamba. C'est un petit peu mieux, mais alors ça s'est éteint au bout d'un quart d'heure.
Sondage. Quelle est selon vous la principale raison du naufrage du FC Nantes face à Rennes samedi? Ça a été plutôt partagé, David, les résultats. Compo frilos de Comboiré, une 30%. Faiblesse mentale du FCN, 36%. Donc surtout la faiblesse mentale pour les gens. Et puis la compo de Comboiré également. Les absents en attaque, seulement 13%. Et Rennes était trop fort pour le FCN, on vient d'en parler. 19%. Patrick nous dit, un gardien, 8 joueurs défensifs, un milieu électron libre, donc c'est Mollet et Mohamed. En clair, tu joues le nul en espérant un hypothétique contre avec une défense qui encaisse trop de buts, ça ne peut pas marcher. Les excuses à Blin ou Kadewere, il ne faut pas y compter. Il fallait tenter Traoré, voire Apua au coup d'envoi. Aka est égal à lui-même. Voilà ce que nous dit ce supporter. Philippe, qu'as-tu pensé, toi, de la proposition nantaise dans cette première partie de match?
Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que ça aurait pu démarrer. Il aurait pu démarrer avec Traoré devant. J'ai toujours du mal à me faire une idée sur le niveau de ce joueur. Et globalement, je trouve que il y a quand même beaucoup de joueurs très moyens à Nantes. Et ce qui me frappe, moi, et c'est dit dans le commentaire que tu viens de lire, c'est la faiblesse mentale de cette équipe qui s'écroule au moindre coup de vent. Enfin, en tout cas, sur certains matchs, on l'a dit sur les derniers matchs. Mmh. Et je rejoins justement le discours de Comboiré qui ne veut pas en rajouter par rapport à cette équipe qui est déjà touchée et au plus mal moralement. Moi, c'est plus ça qui me frappe. Parce qu'après,
on avait dit le contraire à Nice. On avait dit Nice revient, ouais, ils sont capables d'aller gagner.
C'est le seul contre-exemple aussi.
Ouais, c'est le seul. Et le Havre d'aller gagner ce match. Ouais,
Et c'est un peu l'histoire de la saison. Moi, j'ai eu l'impression que cette équipe était sans cesse avec des hauts et des bas, y compris avec Pierre Aristouille.
Ouais, plus de bas quand même.
En début de saison, où il y avait une période d'embellie avec du jeu intéressant. Et puis, juste avant que Pierre Aristouille se fasse vider, ça avait replongé. Je trouve qu'il y a une constante dans la saison pour cette équipe qui est pas très rassurante pour la fin de saison.
Après, si on prend les...
Jean-Marcel est en train de chercher les occasions de la première mi-temps.
Ouais,
on l'a perdu.
Non, mais c'est dommage, c'est que vous ne regardez pas le match. Vous n'avez pas regardé le match.
On était au stade.
Bah là, vous êtes pris par les fumis, je ne sais pas. Vous êtes pris par la
maman, je sais pas qui. Je te confirme, Simon a fait une quinzaine de vidéos. Il était là, il a envoyé à toute sa famille. Enfin, ça n'arrêtait pas.
Franchement, c'est possible qu'on n'ait pas vu, mais on a senti ce qui se passait sur ce stade.
Effectivement, il y a la composition de départ qui interpelle en tous les cas et qui donne pas forcément un signe positif sur tes intentions. Ceci dit, où moi je tempère, c'est pas forcément qu'une question de composition, c'est aussi une question d'état d'esprit.
D'accord.
Et en tous les cas, non.
Lafond, avant match, j'en prends une vidéo.
Oui, dit que c'est pétillant.
Le coach vous a demandé d'être pétillant sur le terrain, mais les gens qui se sont fait chier à la Beaujoire pendant 45 minutes.
Simon, on sent que t'es révolté.
On n'est pas pétillant du tout.
Calme-toi.
Je partage la colère des gens. Ils ont tous envoyé des messages disant faut arrêter, c'est pas possible un match comme ça. C'est un derby. Non, mais après, voilà, tu peux tempérer les choses. Mais
non, je ne tempère pas. Je dis que globalement, et pas, c'est pas que sur ce match-là, je dis qu'il faut toujours. Ce n'est pas qu'une question de dispositif. On a déjà eu ce débat-là, défense à 4, défense à 5. Tu peux jouer avec une défense à 5 si tu es deux latéraux.
Mais là,
c'est Roberto Carlos et puis je ne sais pas qui. Tu n'as pas la même animation. Donc ça dépend aussi des intentions que tu mets. Voilà. Et là, par contre, ce qui m'a embêté, c'est qu'on ne voit pas. Moi, ce qui m'a le plus embêté, c'est qu'en plus, avec cette compo-là de départ, tu n'as pas dans les intentions. T'as pas des gens qui vont, ils sont pas allés chercher les rennais à la gorge.
Ils sont pas allés chercher du tout.
Et alors que c'était une équipe qui était fébrile, voilà, c'est ça que moi je regrette encore plus, qui me déçoit encore plus que la composition, parce qu'elle pouvait, au regard des absences, elle pouvait avoir une logique.
Je suis d'accord avec Philippe
et te dire on va créer un bloc solide, mais derrière on va avoir un jeu de transition rapide de contre efficace. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur 2-3 projections, mais malheureusement elles sont inexploitées et ça a été beaucoup trop rare. C'est ça qui est embêtant.
Non, mais tu as raison, il y a la compo et il y a les intentions. On est d'accord. Après, quand j'ai vu la compo, je me suis dit tiens, j'ai peut-être une idée sur les intentions aussi, dis donc. Je me suis dit peut-être qu'il va faire un gros bus.
Et par contre où là c'est plus décent, c'est que on a des joueurs qui sont pas à leur poste. Enfin, vous parliez de Florent Mollet, effectivement c'est un droitier, il joue côté gauche. C'est aussi ça qui m'embête, c'est de pas mettre tes meilleurs joueurs, ou en tous les cas ceux qui pourraient te faire des différences, dans les meilleures dispositions, là où ils peuvent être le plus efficaces.
En même temps, Mollet, s'il joue faux pied, c'est logique, parce que c'est pas un joueur de débordement. Donc s'il joue sur son...
Oui, qui rentre à l'intérieur.
Donc pour rentrer à l'intérieur, vaut mieux être faux pied. C'est pas illogique.
Notamment si tu as un milieu ou un latéral qui dédouble, avec une équipe avec une volonté d'aller de l'avant, ce qui n'a pas été le cas, comme nous l'expliquait Jean-Marcel à l'instant. On va rentrer sur quelques cas particuliers. Benny Traoré dans un instant, mais Alban Lafont. Avant cela, le match de Lafont, vous le jugez comment? Est-ce qu'il est en train de rater sa sortie? Petit jeu de mots avec la sortie qu'il a ratée sans doute pendant le match, provoquant un pénalty sur l'attaquant du stade René Kalimuendo. Il est en train de rater sa fin de saison, il est en train de rater sa sortie. On n'a plus le Alban Lafont décisif.
Il est en train de rater sa fin d'expérience à Nantes, parce que je pense que pour lui, il est... qui est Ligue 1 ou Ligue 2, il va vraiment, vraiment falloir qu'il s'en aille.
Il est grand temps que ça se termine.
Il est grand temps que ça se termine pour lui, pour sa santé mentale, pour la santé de ses coéquipiers, pour la santé de tout le monde.
Il est sous contrat,
c'est un vrai problème. Il a un salaire très élevé puisqu'il a prolongé 2 ans. Il a un très, très gros salaire. Donc, il va falloir qu'un club... Alban Lafont actuel, je ne vois pas quel... parce qu'il a quand même des prétentions. Je vois pas quel club.
Non, je crois qu'il les a plus. Enfin, il a vu.
Jean-Marcel, il va pas passer de. Tu crois qu'il a plus de prêt? Il s'en fout. Il va aller.
David, je pense qu'aujourd'hui, il vise pas un club européen. Il a regardé.
Ah,
les...
d'accord.
Qui est venu chercher Alban Lafont?
Ah non, il sait très bien.
La Corogne, Celta Vigo.
Il y a eu Nottingham Forest. Par exemple, si on prend l'exemple de Nottingham Forest, en fait, le seul truc qui peut lui arriver aujourd'hui, c'est qu'un club dans un championnat, on va dire élevé, mais un club de bas de tableau le prennent et qui se révèlent là-bas pour avoir un tremplin vers d'autres.
Mais
ça ne sera pas un club européen, et ça, il le sait. L'année dernière, il n'y en a pas eu. Hein. Ou alors dans un championnat beaucoup moins concurrentiel. Enfin, je ne sais pas, je pense à la Turquie ou autre, mais j'y crois pas. Donc,
vous imaginez qu'on était en train de dire, il y a un peu moins d'un an, qu'il était aux portes de l'équipe de France.
Il était même en équipe de France. Voilà, et franchement, c'était un très bon gardien.
C'est un bon gardien, mais il a une irrégularité.
Non, enfin, on peut s'interroger sur sa force mentale quand même. Il a pas sa période de très bon qu'on avait vu lorsque contre le PSG en février 2022, si mes souvenirs
c'est ça
2022, donc il y a deux ans, elle a pas duré non plus énormément. Et puis par contre, il a des trous d'air qui ont duré, et à des moments clés de la saison, enfin
l'année
on se souvient
dernière,
de la fin de saison l'année dernière
à Brest, hein,
et là par contre je trouve qu'il est inquiétant depuis un moment. Enfin
il est plus décisif du tout,
et je trouve même qu'il est même fantomatique. Enfin, il dégage une vraie fébrilité qui faut se souvenir que normalement il aurait dû avoir il y a un but rennais qui a été refusé pour une faute, je sais plus, je crois que c'est de Doué sur lui, je sais plus.
Oui, il y a rien du tout.
Il y a rien du tout.
Non, c'est surtout, ouais, c'est surtout,
il y a rien du tout. Il se déchire complètement.
C'est surtout que lui obtient une faute alors qu'il n'y a rien du tout.
Oui, voilà.
Ouais, ouais. Voilà. Donc, au ralenti, on voit qu'il n'y a rien du tout. Ninor nous dit le niveau de Lafond depuis quelques mois est à l'image du niveau de cette équipe. Et c'est vrai qu'en baromètre, il est pas mal. Là, mentalement, ils ne sont pas bien et il ne les tire plus vers le haut, Philippe.
Oui, j'ai en mémoire aussi ce qui avait été dit ici sur Alban Lafond, que ce n'est pas un bosseur. Et je trouve qu'il ne progresse pas du tout. Il a gardé ses lacunes. Et finalement, quand il est un peu moins bien, il devient très perméable, très vulnérable. Il a peut-être besoin de se faire une remise en question, lui, personnellement, pour régler ses problèmes.
Enfin, on l'a vu en février-mars, il y avait une stat qui était ultra inquiétante. David l'avait sorti dans un de ses rares bons papiers qu'il fait dans
Oui, c'est rare, c'est assez rare.
Mais oui, ouais. Mais là, il avait bossé et tout.
C'est
un
toi
peu,
qui l'avais inspiré, peut-être.
Un peu mis la pression. Et en fait, il avait quand même le taux, le ratio entre le nombre de buts encaissés par rapport au nombre de tirs cadrés, qui est un des plus élevés de Ligue 1 sur les périodes de février-mars.
Ouais.
Et là, on est dans cette suite là, ce qui est vraiment inquiétant dans le Money Time.
Allez, on laisse Alban Lafond tranquille et on espère qu'il soit un peu décisif sur les 4 matchs qui restent au Football Club de Nantes.
Si Descamps était apte, bon là, le problème c'est qu'il est blessé, il a une pubalgie, c'est à se demander s'il ne faut pas sortir Lafond et mettre le numéro 2.
Le problème de Rémi Descamps, c'est qu'on l'a perdu dans sa gestion.
Mais par contre, tu l'as perdu dans sa tête aussi.
En janvier.
C'est terminé, mais. Et tu vas pas mettre Petrić. Je vois pas Camboiré mettre Petrić à la place de Lafond.
Le retour de Camboiré était censé aider Lafond,
oui,
parce que il y a une relation très forte, je crois que c'est toi qui l'avais dit, David. Ouais, ouais, une relation très forte entre les deux.
Encore une saucisse.
Et en fait, depuis 4 matchs de Camboiré là,
il est bon à Nice, il est bon. Voilà, premier match. Voilà. Mais c'est tout.
Il subit pas non plus énormément d'occasions à Nice.
Non, mais en fin de match, dans le domaine aérien, il est irréprochable. Enfin, franchement, il sort sur tous les coups de pied et
on voit pas de progrès dans ce domaine.
On refait pas l'histoire des pas ton papier, qu'il s'entend très bien avec Camboiré. On a cru que ça allait peut-être leur lancer, ça ne s'est pas fait pour
l'instant.
Parce que
c'est ce qui s'était passé il y a 3 ans quand Camboiré était venu, avait remplacé Domenech. Les deux l'avaient dit. Camboiré avait dit qu'il avait beaucoup parlé à Lafond, et Lafond avait reconnu que l'avenue de Camboiré lui avait fait du bien.
Ne cédons pas à la culture de l'instant, il va peut-être être énorme à Montpellier, et on en parlera.
Je le souhaite et je le souhaite au FC.
Il sera chez lui à domicile.
Dans le podcast. Benny Traoré, tiens, un autre garçon qui a un petit souci en ce moment. C'est quoi le problème? Pourquoi l'Ivoirien, arrivé cet hiver, à la demande notamment de Jocelyn Gourvennec et de la cellule recrutement du FC Nantes, est-il devenu un quatrième ou un cinquième choix devant, alors qu'il a un profil un peu différent, avec une capacité d'élimination, avec de la vitesse? On a posé la question à Antoine Camboiré, la réponse est lapidaire, écoutez.
Non, parce que il fait pas assez, sa rentrée contre le Havre, j'avais envie de lui arracher la tête. Hein. Voilà. Oui, parce qu'ils ont des qualités, mais quand tu as une opportunité de jouer, il faut montrer ce que tu es capable de faire. Et aujourd'hui, on joue le maintien, il faut s'accrocher sur le terrain. Il faut faire plus, il faut se dépouiller, voilà, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Il faut être capable, s'il y a des dribbles, il y a des situations où tu arrives à provoquer, tu arrives à centrer, tu arrives à frapper au but, tu arrives à éliminer, tu me donnes des arguments pour te faire jouer. Quoi. Là, Kader, le week-end dernier à Oar, il fait une superbe rentrée. C'est pour ça que quand il faut rentrer, c'est le premier atout offensif que j'ai. Je lance.
Quel tacle hein, du Kanak pour Benny Traoré et Philippe.
Alors là, je l'avais pas entendu moi.
Il protège pas là.
Oui. Et clairement, Traoré, il est pas titulaire dans ce match-là parce qu'il fait une mauvaise entrée au Havre. Là, c'est très clair dans ce que dit Comboiré.
Et qu'a priori, à l'entraînement, il est pas trop dans le thème. Hein.
Là, pour le coup, je pointerai du doigt la responsabilité de Comboiré qui, au lendemain du Havre, doit faire un débriefing avec son joueur en disant
il l'a peut-être fait. Il l'a peut-être fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il le dit.
Moi, en écoutant Comboiré, j'ai l'impression qu'après le match du Havre, quand il dit j'ai envie de lui arracher la tête, l'expression est très maladroite d'ailleurs, ça veut dire qu'il lui en veut de sa mauvaise entrée au Havre et qu'il paye la note sur le match suivant. Et moi, je pense que l'entraîneur, il a une semaine pour remettre son joueur devant ses responsabilités en lui disant écoute, t'as une carte à jouer parce qu'il y a deux attaquants en moins samedi. Là, t'as été mauvais. Pardon. Là, t'as été mauvais. C'est le rôle de l'entraîneur, le manager, de motiver son joueur, de le mettre devant ses responsabilités et de le pousser dans ses retranchements.
Mais là, ça va plus loin. Il dit qu'il compte plus sur lui. Hein. Et mentalement, il est pas prêt pour la fin de saison. Enfin, moi, ce que je comprends, c'est que pourquoi il est cinquième choix, parce qu'il compte plus du tout sur lui.
C'est qu'à mon avis, Kadewere, Traoré, on ne le verra pas. On ne le verra plus jusqu'à la fin de la saison, ou alors 5 minutes par-ci par-là. Mais je reviens sur ce que tu dis. Il lui a peut-être fait un débriefing d'après-match. Ça l'empêche pas de dire ça devant les médias.
Je perçois dans ce qu'il dit.
Il a pu le faire.
Je perçois dans ce qu'il dit une sanction par rapport à
sa mauvaise entrée. C'est une sanction. Il lui a peut-être dit.
Et je pense. Oui, mais il y a un moment, il y a deux façons de voir les choses. Vous avez besoin de ce joueur-là. Vous essayez de le remettre en route d'une manière ou d'une autre, en musclant votre discours parce qu'il a besoin éventuellement d'entendre quelque chose qu'il secoue un peu le joueur. Et j'ai pas perçu ça.
Non, mais le diagnostic est plus grave que ça, Philippe. Il préfère mettre Sissoko et Mollet sur les côtés, faire rentrer Bamba, faire rentrer Apua. Benny Traoré, il compte plus sur lui.
Moi, on nous a dit en interne, on nous dit qu'il a absolument pas le niveau.
Alors voilà, c'est ça.
Il y a même pas débat.
Mais sauf qu'on l'a pas vu ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Je te dis ce que. Oui, voilà, mais on nous fait comprendre.
Oui, mais moi aussi, mais bon. On m'a dit. Pour le coup, j'ai posé la question à Comboiré et on m'a dit après, ouais, pourquoi vous insistez avec Benny Traoré? Mais parce qu'on l'a vu qu'il était pas si mal que ça quand même. Sur le côté, il apportait de la vitesse, de la percussion, ce qui est pas capable de faire un Sissoko balle au pied.
Contrairement à vous, j'ai pas vu tous les matchs du FC Nantes, mais j'ai vraiment du mal à me faire une idée sur le niveau de ce joueur. Moi, je suis plus. Je suis plus
extraordinaire.
Je suis plus surpris que Comboiré pointe du doigt l'état d'esprit de Traoré que son véritable niveau. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir un joueur qui va assurément apporter quelque chose en Ligue 1.
Alors, on est tous d'accord, c'est pas Ousmane Dembélé qu'on a recruté chez le dernier de Première Ligue. Par contre, en tous les cas, sur ce qu'il avait démontré lorsqu'il est arrivé, à la fois sur le premier match à Pau,
en Coupe de France,
mais aussi à Toulouse, où moi je l'avais trouvé intéressant, notamment dans une équipe qui jouait bloc bas, à la fois dans les duels et puis dans sa capacité à remonter remonter le bloc par sa capacité à remonter le ballon,
un
par
peu
ses courses.
Il avait
quelque chose de tonique, en tous les cas sur ses premiers appuis, il a quelque chose. Enfin, on va pas le faire passer pour dire qu'il a pas le niveau. Je suis désolé, il y a des joueurs ici dont on a vu passer
des joueurs qui avaient pas le niveau devant.
Moi, par exemple, par rapport au recrutement de cité, je le trouve meilleur que Marquinhos avec le Brésil. Ouais. Il a fait aussi en plus un très bon match avec les espoirs en ivoiriens qu'ont tenu tête aux espoirs français pendant la dernière trêve internationale où il a été élu homme du match. Enfin, c'est pas non plus.
Il est pas nul.
La Côte d'Ivoire qui est aussi championne d'Afrique, enfin, qui est quand même une action qui compte en Afrique. C'est pas non plus un joueur qui sort de nulle part. Donc, moi, je suis assez surpris en tous les cas. Mais même sur la fin, on se posait la question avec Jocelyn Gournay qui l'utilisait plus sur les derniers matchs. Sur sa non-utilisation par rapport à ce qu'il pourrait effectivement
peut-être
apporter.
Qu'il manque d'investissement les coachs peuvent le voir et pas nous dans le
c'est
quotidien.
Possible mais sauf que autant on le disait on a beaucoup eu un débat sur Kader Bamba. Moi je pense que Kader Bamba c'est un joueur qui est important dans un effectif comme celui de Nantes parce que t'as pas d'équivalent et que sur 10-15 minutes t'as besoin d'avoir ce type de joueur pour débloquer les situations. Et je pense qu'un Traoré, eh ben, t'en as aussi besoin. Le foot, c'est pas non plus qu'un. Alors, soit t'es super, tu t'appelles le Barça et tu joues toujours en redoublement de passe, soit tu joues en jeu de transition rapide et c'est bien d'avoir un peu de vitesse pour jouer en transition rapide.
On est d'accord sur ce sujet-là et ça reste un peu une énigme, même si à cette énigme-là, Antoine Comboiré a apporté quelques éléments de réponse. La série de 8 défaites, messieurs, consécutives à domicile en Ligue 1. Toujours plus loin avec ce record de la honte égalé.
Toujours plus haut.
Toujours plus haut aussi. Pedro, la honte à domicile, Pedro Chirivella.
Ouais, c'est une honte. Je sais pas, on n'est pas à l'auteur de ce que l'FC Nantes représente. On n'est pas à l'auteur de la Beaujoire. Voilà, il nous reste un match ici. J'ai pas la même chose tous les matchs. On va tout faire pour le gagner. Mais par contre, si on joue comme ça, on peut jouer 5 saisons de plus, on va pas gagner un match. Donc il va falloir se réveiller pour le dernier.
Si on joue comme ça à la maison, on peut encore perdre pendant 5 saisons, dit Pedro Chirivella, en colère comme l'était la plupart des supporters. Dans l'élite du foot français, 3 équipes ont déjà réalisé cette vilaine succession de 8 défaites dans leur enceinte. Le FC Metz en 2017-2018.
Est descendu.
Descendu. C'est vrai. Toulouse.
Descendu.
Descendu. Et enfin, Nîmes.
Descendu.
Descendu. Nîmes, c'était 2020-2021.
Sachant que Nantes, il est fort possible que Nantes le batte finalement, ce record. Hein.
Parce que c'est le
LOSC. Lille hein, qui vient.
Ouais. Ce serait donc le record de la honte.
On parlera du calendrier tout à l'heure.
Ça n'est jamais arrivé en Ligue 1 qu'une équipe perde 9 fois d'affilée à domicile. C'est incroyable de se dire ça. Parce qu'il y a quand même eu des sacrées équipes de 1.
Oui, oui.
Non, voilà. Et que, comme le soulignait David dans un excellent papier.
Disons, j'en fais des excellents papiers.
Non, mais je le trouve.
Non, mais par contre, t'as pris un billet avant de venir.
Plus le FC Nantes est dans une passe difficile.
Meilleur est David.
Ouais,
il part de loin.
Et il part de loin. Et en tous les cas, non, il mettait ça en rapport par rapport aux années 70 où le FC Nantes tient le record d'invincibilité à Sopin.
Merci.
1700, je crois, 68
rappelons
joueurs, David.
1768 jours.
Jours plutôt que joueurs.
Entre 1976 et 1981, 92 matchs sans défaite à Sopin. C'était un autre FC Nantes.
Et on va avoir le record inverse, sans doute, malheureusement.
Quelle honte.
Mais le FC Nantes, c'est un club qui aime battre les records. Il y a cette série de 32 matchs. Donc maintenant qu'il ne peut plus battre des records positifs, il faut se signaler d'une autre manière.
Philippe, franchement.
Non, mais c'est triste parce que si on met ça en adéquation, c'est une des plus belles ambiances en France. C'est sans doute une des meilleures affluences proportionnellement.
Tu vas prendre tout mon papier de lundi ou comment ça se passe?
Bah oui, c'est quand tu t'avais dit ça parce que tu étais un peu en panique dimanche quand
non, les gars, on s'en fout de vos coulisses là.
Non, mais voilà, je trouve que. Les spectateurs méritent pas ça à la Beaujoire d'être sur une série comme ça. Et si on veut rebondir sur les paroles de Pedro Chirivella, quand il dit qu'on n'a pas le droit de proposer ça, c'est qu'on sent, il ne le dit pas complètement, mais on le devine, qu'en fait, dans les attitudes ou les intentions, on est très loin en fait, de ce qu'il faut pour. On peut jouer comme ça pendant 5 ans et on ne gagnera pas un match.
C'est pas 8 accidents.
Voilà, c'est pas 8 accidents, c'est qu'à un moment, ça traduit quelque chose dans la solidarité, à l'image du premier but que tu prends, où tout le monde est apathique et tout le monde est très loin et pas concerné. Sur un match comme ça, tu ne peux pas manquer autant d'agressivité.
J'interroge, moi, Philippe, le niveau de ces joueurs, de cet effectif. Parce que quoi qu'il arrive, de cette saison restera ce record-là, c'est sûr. Et on se souviendra de la saison 2023-2024 comme celle des 8 défaites consécutives à domicile de ces joueurs qui sont incapables de montrer quelconque réaction face à Rennes.
On aura
désolé.
Le frisson du maintien, et ouais, ça vaut quand même
une année de plus. Mais franchement.
Parce que dans ces matchs, il y a aussi des défaites contre Clermont. T'as des
Metz,
contre Metz,
Laval,
des contre Strasbourg,
Laval
en Coupe de France. Et Philippe disait tout à l'heure, oui, mais c'est tout simplement que ces joueurs sont faibles. Alors, mentalement, tu disais, mais aussi, pour toi, ils n'avaient pas le niveau. Quand on les prend un par un,
j'y crois même plus.
À d'autres effectifs,
Nantes devrait être un tout petit peu plus haut.
Évidemment.
Un tout petit peu plus haut quand même. C'est pas terrible, mais Nantes devrait pas être.
On sait pourquoi, la gestion d'Equita, 3 entraîneurs dans l'année, tout ça, ça facilite pas l'expression collective. On est d'accord.
Évidemment.
Pas l'expression collective et on l'oublie encore plus dans une D1 resserrée à 18 clubs où t'as de moins en moins de marge. T'as 3 descentes potentielles, donc t'as 2 clubs en moins souvent qui étaient en fond de tableau sur lesquels tu pouvais prendre des points. Aujourd'hui, c'est quand même ultra resserré. Enfin, on te sent bien, t'as une équipe un peu à la rue, c'est clairement, mais sinon.
Mais j'ai pas vu une équipe s'arracher au-delà du niveau. Franchement, je reviens sur cette histoire de derby. C'est quand même un match différent. Parce que l'intensité n'est pas là.
Jostein Gourvennec nous a expliqué que c'est une équipe qui était prête au combat et qui était habituée au regard de l'expérience ces dernières saisons. Quand Metz arrive à la Beaujoire, ils sont quasiment au fond du trou. Et aujourd'hui, ils battent Lens, qui est quand même un club en Ligue des Champions. Ils vont chercher à l'arracher une victoire au Havre. Dans les attitudes, c'est autre chose.
Oui, alors je suis d'accord, mais ils ont aussi un facteur X, quoi. Ils ont le joueur qui va les sauver, hein, très clairement. Il marque un but à chaque match, ça change tout. Hein. À Nantes, en ce moment, t'as aucun joueur qui est capable de marquer.
Mais Jean-Marcel a raison.
Il met pas un pied devant l'autre.
Mais il n'y a pas de hasard. À un moment, la dynamique messine, elle est liée à ce collectif qui se bouge. Je suis désolé.
Oui, mais ça les met en confiance d'avoir un joueur comme ça, en fait. Je pense que d'avoir un. Vous savez que devant, vous avez un mec qui peut marquer à tout moment.
Ils se sont pris, je crois que c'était contre Monaco, un 4-1. chez eux à la maison en pleine crise. C'est une défaite qui faisait très mal. En plus, ils étaient vraiment en retard au classement. Ils s'en sont relevés. Donc, il y a eu des équipes qui étaient dans une situation beaucoup plus compliquée, ou en tout cas dans des contextes de vestiaire, ou dans des contextes comptables beaucoup plus compliqués que le FC Nantes, et qu'on fait preuve, en tous les cas, de ressources mentales pour s'en ressortir. Et avec, en plus, il y a eu plusieurs scènes à Saint-Symphorien où les supporters ont pris à partie les joueurs. Tout
ça s'est très mal passé.
C'était vraiment sur un fil.
Mais ils s'en sont relevés, Jean-Marcel.
Exactement. Et ça dit aussi des choses, pour reprendre l'expression de David, ça dit aussi de la capacité mentale, en tout cas la force mentale de ce groupe-là.
Oui. En écho, me revient en mémoire ce qu'avait dit Jocelyn Gourvennec peu de temps après son arrivée. Il ne faut pas oublier d'où viennent ces joueurs-là ces derniers mois. Ils ont perdu beaucoup
dernier
de matchs
sur l'année 2023.
Dernière équipe en 2023.
Et il y a quelque chose qui est présent dans les têtes nantaises. Et ça explique sans doute cette fragilité mentale.
Ça restera quand même comme une marque indélébile pour chacun de ces joueurs d'avoir ce record-là sur cette saison-là. Bah ouais, mais nous, on s'en souviendra.
Oui,
et franchement, ils sont pas au niveau.
Le pire qui puisse arriver, c'est pas ça. C'est surtout la descente en Ligue 2. Il vaut mieux perdre une 9e fois contre Lille et puis sauver sa place en Ligue 1 que pas perdre une 9e fois contre Lille et descendre en Ligue 2.
Oui, c'est vrai. Mais enfin.
Attends, t'as bien dit dans le.
Ce serait bien de gagner un moment ou un autre pour se sauver aussi.
Évidemment,
il va falloir prendre des points à un moment. Peut-être à
Montpellier,
tiens, on va en parler. Transition facilitée par l'excellent Philippe Audouin.
Simon Rongoat, It West. David Filippo, West France. Philippe Audouin, RTL. Jean-Marcel Boudard, West France. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Les Canaries jouent-ils véritablement leur survie en Ligue 1 sur ce match à Montpellier ? Jean-Marcel ?
C'est qui ça ? Clapton ?
Non !
Pas Clapton ça ?
Qui est la productrice de l'émission au niveau musical, voyons.
Ah, Bruce Springsteen.
Bien sûr, clin d'œil pour l'anniversaire d'Hélène, notre conseillère musicale.
Oui, c'est vrai, j'aurais dû y
penser. Dont Bruce est fan d'Hélène. Oui. Les Canaries espèrent une belle soirée. C'était Waiting on a Sunny Day. On espère un jour merveilleux.
On va pas être très fiers de nous.
Les Canaries qui espèrent. Ouais, c'est Jean-Marcel qui va être très décevant sur ce coup-là. Belle soirée au moins vendredi. Points, comment vous imaginez, messieurs, ce FC Nantes à la Mosson, David ? Retour de Kadewere et d'Ablin, par exemple. Est-ce que ça peut tout changer ? Est-ce qu'on peut voir un Nantes comme à Nice, ambitieux, haut sur le terrain, efficace et gagnant à la fin ?
J'en sais rien. Franchement, cette équipe, en fait, elle est totalement imprévisible. Oui, effectivement, tu parles de cette équipe de ce match à Nice, mais Camboiré venait d'arriver. Donc, on parle souvent un peu de l'électrochoc.
Il nous disait qu'il faut jouer pour gagner,
discours,
tout ça.
Mais finalement, depuis
Nice... Nice qui était quand même bien passé à côté aussi. Enfin, moi, je l'avais souligné à l'époque.
Oui. Fais pas ton Camboiré. Non. Il manquait du monde.
Non, mais il y avait deux éléments.
Mais ils avaient été pris à la gorge, les Niçois. Il y a deux équipes aussi. Franchement,
je suis d'accord avec toi. C'était pas un bon Nice. Mais Nantes, ce jour-là,
je me rappelle que vous aviez été beaucoup plus dur sur la performance de Strasbourg lorsque Nantes a été gagné à Strasbourg que sur la performance des Niçois face à Nantes. Mais bon.
Oh là, c'était au début de la saison.
Ah,
Pierre Aristo.
Il y a des choses qui te. Tu règles tes comptes maintenant.
Il crache sa valda 6 mois après. Ouais, vous aviez dit ça.
Non, parce que ça fait un long débat, mais vous l'avez déjà oublié. Comme quoi, je ne pèse pas dans cette émission.
Arrête, mais voilà. Calimero. Ton regard, tiens, justement, sur ce match de Montpellier, est-ce que le FC Nantes joue vraiment sa survie ? Est-ce qu'il faut aller chercher 3 points ? Pardon. Est-ce qu'il faut aller chercher 3 points ? Essayer d'aller gagner.
Ah, bah oui, là, il y a un moment, il va falloir essayer d'aller gagner pour s'en sortir, puisqu'il te reste 4 matchs et que de toute façon, il te manque. Entre 3 et 4 points, je dis bien 4 points parce que selon certaines situations, vu ta différence de but qui était défavorable,
t'as plus que 2,5 points d'avance en fait, au lieu de 3 sur tes adversaires.
Donc,
le Havre,
tu pourrais avoir besoin de 4 points si tu finis en roue libre avec le triptyque Brest, Lille à domicile et Monaco à l'extérieur. Trois équipes, en tous les cas, qui auront sans doute des choses à jouer.
La Ligue des Champions pour les trois, c'est simple.
Oui,
elles sont deuxième, troisième et quatrième.
Faut regarder aussi le calendrier de Metz. Metz reçoit Lille. Metz reçoit Rennes, Metz va à Strasbourg, Metz reçoit Paris. Alors évidemment, Paris, la dernière journée, ça sera peut-être pas finalement...
Oui, c'est ça le problème en fait.
Mais ce que je veux dire, c'est que Strasbourg, le calendrier de Metz, il n'est pas super engageant non plus. Lorient n'a pas des matchs faciles non plus.
Je les ai. Allez, c'est parti. Si tu veux, on les a. Ouais. Lorient, donc il y a ce match face au PSG cette semaine. Ensuite, ce sera Toulouse. Ils vont à Lens. Ils vont à Marseille. et ils accueillent Clermont pour une dernière journée.
Ouais, Clermont, c'est cadeau. Qui sera Lens et Marseille en déplacement, c'est pas cadeau
non,
du tout pour
Marseille,
rien.
Ça peut être cadeau, mais si Marseille, enfin actuellement, l'infirmerie, il y a plus de joueurs à l'infirmerie.
Ils sont peut-être en finale
aujourd'hui.
Aussi les Marseillais de.
Exactement.
Il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas à ce jour, mais sur le papier, on ne peut pas dire que aller au Vélodrome, c'est cadeau pour Lorient.
Non, mais Philippe, il y a un dernier match Lorient-Clermont où tu peux considérer que
là,
Lorient, ils ont 3 points.
Là, on est d'accord.
Donc ils sont plus à 5 points, mais ils sont à 2 points de toi.
Exactement. Ça fait penser au Nantes-Angers de l'année dernière.
Voilà.
C'est amusant parce qu'il y a un mois, quand Moiré est arrivé autour de cette table, j'ai dit que je voyais Nantes aller en Ligue 2. On m'avait demandé mon argument ou mes arguments. Mmh. J'avais dit qu'il y avait un argument, c'était le calendrier.
Oui.
Il y a
une
personne autour de cette table que je ne
Monsieur
souhaite
Boudard,
pas regarder.
Ici présent, qui se regarde
dit,
pas
mais
du podcast.
Pas d'autres arguments. Il m'avait humilié. Hein. J'ai reçu des messages de soutien de proches, de fans aussi. Et là, c'est marrant, il ne parle que du calendrier alors, depuis 10 minutes. Non, mais c'est amusant. Non. C'est amusant.
C'est pas un argument parce que
lui aussi, il avait une valda à cracher. Putain, vous êtes venus les gars.
Heureusement, je viens pas trop souvent. Moi, j'ai pas de valda à cracher.
Mais en fait, c'est une séance de psychothérapie. C'est une séance de psychothérapie de groupe.
Bah, les supporters qui nous écoutent en ont besoin. Ouais, hein, franchement.
Ce qui est rassurant, c'est que David voit Nantes tomber en Ligue 2 parce que l'année dernière, il a pas arrêté de dire que Nantes tomberait en Ligue 2. Donc, comme il est très mauvais pour les stickers, c'est plutôt rassurant.
David voyait Nantes tomber en Ligue 2. Après le succès à Nice, il voyait plus Nantes en Ligue 2. Et là, il voit à nouveau Nantes en Ligue 2. C'est la culture de l'instant, David Philippe.
En quoi c'est pas un argument? C'est que tes adversaires, malheureusement, que tu avais un peu enterrés, sont allés faire des performances contre des équipes beaucoup plus hautes que toi et sur lesquelles tu ne supposais pas. Et donc, il y a un moment, va falloir aussi les imiter et faire comme eux. Sinon, tu n'as qu'un match à jouer. Et comme le disait Antoine Camboiré, là, c'est même plus un tournant de la saison, c'est un match décisif à Montpellier. Montpellier qui, pour la petite histoire, ça fait trois fois sur quatre que tu joues le maintien et ça fait trois fois sur quatre que Montpellier en fait est le caillou dans ta chaussure puisqu'ils sont en capacité de, ils te feront pas de cadeaux en tous les cas et qu'ils sont en capacité en tous les cas de t'enfoncer.
Je te demandais si t'avais le son de Camboiré.
On l'a déjà diffusé tout à l'heure.
Non, quand il dit le Montpellier, celui-ci il est important.
On l'a déjà diffusé tout à l'heure.
Déjà diffusé,
Merci d'être attentif au podcast, ça fait plaisir David. Pour compléter cette histoire de calendrier, Philippe, tu as raison, il y a aussi le Havre.
Oui.
Le Havre qui va à Paris.
Oui.
Paris, ce sera le match qui précède la demi-finale contre Dortmund.
Mais le match qui peut consacrer Paris si Paris n'est pas champion à Lorient demain.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, mais rappelez-vous, le Paris avec Clermont.
Clermont a pris un point. Bon. Le Havre est 3 points derrière Nantes pour l'instant. Hein. Donc le Havre va à Paris. Le Havre accueille Strasbourg, une équipe qui sera déjà maintenue. Ensuite se rend à Nice, ça c'est la compétition européenne, et qui reçoit Marseille lors de l'ultime journée.
Dont on ne sait pas dans quel état.
Est-ce que les Marseillais seront démobilisés? Est-ce qu'ils seront en finale de Coupe d'Europe
aujourd'hui?
Il y a beaucoup trop de paramètres
et puis,
dont on ne maîtrise pas.
Enfin, vous parlez de Marseille comme si c'était le Marseille d'il y a deux mois, mais enfin il y a la moitié des joueurs qui sont en infirmerie, hein, je vous rappelle quand même.
Oui, ça fait deux fois que tu le dis, ça t'inquiète beaucoup Jean-Marcel.
Oui, parce que c'est aussi ça, enfin, dans le rapport de force ou dans la dynamique, c'est une équipe aujourd'hui qui pioche, c'est pas non plus une équipe... incroyable qui fait peur. Alors, si, peut-être pour Antoine Camboiré, mais pas pour les autres.
On est un peu parti dans tous les sens sur cette deuxième.
Oui, je sens que tu maîtrises moins tes débats.
De Montpellier. Est-ce que Montpellier, qui est quasi maintenu, ça peut changer les choses ou pas que cette équipe Montpellier.
Non, parce qu'ils auront trop envie, comme les années passées.
De faire un vilain coup au FC Nantes, notamment Michel Derzakarian.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Ok. Est-ce qu'il faut jouer le nul? Est-ce que c'est possible?
Non.
Est-ce que ce FC Nantes sait jouer le nul?
Je sais pas, c'est très peu de nul cette saison. Ils sont incapables de faire un nul.
4 nuls, Nantes. Oui, c'est 9 victoires, 4 nuls et 17 défaites.
Je crois que c'est l'équipe qu'on a qu'on a réalisé le moins. Après, il ne faut pas partir sur un nul. Il te faut 4 points. Donc, si dans la logique camboirienne, Rennes est beaucoup plus fort, que dire des 3 derniers, effectivement, les 3 points que tu dois aller chercher, c'est à Montpellier. Si tu ne vas pas les prendre là, on peut légitimement s'inquiéter de la suite.
Oui, mais il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Évidemment que les 3 derniers matchs, Nantes ne va pas les aborder en disant c'est comme Rennes,
on
ils sont
les
plus
joue
forts
pas.
Que nous.
Ils pas la peine, ils sont plus
donc,
forts.
Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, Jean-Marcel.
Ah, merci. Il faut le temps de croire qu'on boirait, en fait, Jean-Marcel.
Aussi naïf, Jean-Marcel.
Il est naïf.
Et c'est bien de dire qu'il faut gagner à Montpellier, mais enfin... Déjà, ça serait bien de faire un nul plutôt que de perdre, parce que
ils savent pas garder un résultat.
Non, mais ça peut se produire quand même. Ça peut se produire quand même. Au Havre, il s'en est fallu de peu que finalement
que
ça termine par 0-0.
Et puis t'as gagné.
Que tu perdes ou que ça termine par
0-0.
Il n'y
avait rien de maîtrisé.
Bon, si dans 8 jours, Nantes a perdu à Montpellier, vous direz, ça aurait été bien de prendre un point. Donc aujourd'hui, idéalement, faut gagner, mais bon, si vous prenez un point, ça sera toujours ça.
Ouais, et ben on va flipper.
En tous les cas, si c'est un match, il y a une vraie pour être sérieux, pour donner un peu d'infos et pour pas être dans la prospection.
Merci,
il y a quand même
Jean-Marcel.
Un peu d'inquiétude au sein du club depuis la défaite contre Rennes. Le climat a vraiment changé et
bien
basculé
sûr.
Dans l'inquiétude, si ce n'est l'angoisse.
Bah dans le stress qui avait fait changer de coach, souvenez-vous,
oui,
en début de saison.
Et justement, ce match de Montpellier-là est pris comme... vous savez, il y a toujours une atmosphère autour d'un club lorsque c'est compliqué, lorsque... Voilà, des fois, tu peux avoir tout le monde qui s'y met, qui est derrière toi, tu sens un élan pour te pousser à... Là, en cas de défaite à Montpellier, après ce que tu as vécu contre Rennes, je pense que tu prendrais un gros coup derrière la tête.
Le changement à Montpellier, je l'ai évoqué rapidement, mais je ne vous ai pas tous entendu là-dessus, c'est retour de Kadewere et retour de Mathis Ablin, qui, on le rappelle, d'un point de vue contractuel, n'a pas pu jouer contre Rennes parce qu'il est prêté par les Rouges et Noirs. Kadewere et Ablin, ça change les options en attaque, ça peut permettre d'avoir une équipe avec un autre visage, Philippe.
Je trouve que psychologiquement, déjà, vous abordez le match autrement, en vous disant que vous avez des vrais joueurs, alors vrais postes, et une équipe plus équilibrée. Déjà, moi, je trouve que l'ensemble de l'équipe, psychologiquement, sera rassurée, remise un peu en confiance par cet aspect-là.
Sauf que si tu continues de défendre à 5 mètres des attaquants adverses, il ne se passera pas grand-chose et tu seras puni de la même manière.
Il faudra autre chose. Mais tu pourras contrer cette équipe Montpellier-Rennes plus facilement avec la vitesse de Kadewere
et rien ne dit que... Nantes défendra aussi mal à Montpellier que contre Rennes. D'un match sur l'autre, il n'y a pas de vérité, Jean-Marcel. Donc, on peut même penser que c'est une grosse piqûre de rappel qui va peut-être faire réagir certains. Donc, je ne sais plus quelle était ta question.
Tu t'énerves parce qu'il est un peu naïf, mais ne t'énerve pas.
Non, je ne m'énerve pas, je ne crois pas. Mais, j'ai perdu le fil de ta question.
Kadewere, Ablin,
qu'est-ce que ça va changer ?
Moi, je trouve que déjà, psychologiquement, dans la façon d'aborder le match, ça change quand même les choses. C'est avec Ablin que Nice a été très bon. Nantes a été très bon à Nice.
Même moi.
Donc ça veut dire qu'il y a aussi.
Ouais, il a été bon aussi Ablin. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est devenu un joueur indispensable. Alors qu'il y a un mois, il était.
Il était
au placard. Il
n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Il faut au moins accueillir cette bonne nouvelle.
Bien sûr. Ouais. Et je pense que n'est pas impossible que Mohamed sorte aussi de l'équipe. Kadewere peut jouer en pointe.
Le pauvre, il a erré comme une âme en peine.
Ouais, mais bon, il perd énormément de ballons. Il
marque
ne fait
pas un
que
but dans
défendre.
Le jeu.
Il ne marque
et par
pas
contre,
un but dans le jeu.
Et par contre, son coup de tête sur corner...
C'est en papier, t'as peut-être vu. Ouais,
par contre, son coup de tête sur corner, c'est la seule occasion de Nantes. Et c'est un de ses points forts. C'est quand même lui qui rabat la trajectoire du ballon, qui cadre. Il est encore capable de ça, hein.
Pour finir sur Montpellier, Douglas Augusto, est-ce qu'on a des nouvelles du bonhomme ? Comboiré craignait une pubalgie ou quelque chose d'un peu embêtant.
Ça fait un petit moment qu'il traîne ça. On verra, on aura.
Parce que c'est quand même un patron du milieu de terrain.
Jeudi.
Moi, je trouve que c'est très embêtant.
C'est pas impossible qu'il soit pas à Montpellier. À mon avis, ça va être un petit peu juste pour Douglas Augusto.
Et ça, c'est embêtant.
Et je pense qu'il va jouer avec Chirivella et Sissoko au milieu, je pense, devant la défense.
Plutôt
que
Moutoussamy, parce que...
Oui, Moutoussamy...
Franchement, c'est pas le même niveau. Hein.
Moutoussamy, sur le premier but rennais, il lâche complètement l'action rennaise. Il ne suit pas celui de l'autre.
Il laisse Guéladoué filer.
Incroyable.
Il n'est pas tout seul, il y a Kodzak qui est très loin aussi de son attaquant.
C'est vrai, mais
et
si
derrière,
tu suis la trajectoire de Moutoussamy...
Ils sont trois, en fait, c'est une œuvre collective.
Je suis d'accord. Sur le début de l'action, moi, en direct, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Moutoussamy ? Il s'arrête, il ne suit pas. Enfin, on voit
Guéladoué emmène le ballon sur le côté droit, il y a le relais de Blas, et Moutoussamy, ça se passe.
S'arrête.
Il voit Guéladoué qui déclenche l'action, il voit Guéladoué qui fait une course dans la surface.
J'ai vu la même chose.
Est absolument seul pour centrer, mais vraiment dans un fauteuil. Là, je suis un peu d'accord sur le fait que Moutoussamy a sa part de responsabilité.
Ça manque d'agressivité défensive. Là, il est pas
vigilance,
attentif. Et d'implication peut-être d'y aller, d'y être. Ils n'y sont pas les Nantais. On parle de Youth League, messieurs, avec un week-end où les Nantais étaient en demi-finale.
Simon Rongoat, It West. David Filippo, West France. Philippe Audouin, RTL. Jean-Marcel Boudard, West France. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
La Youth League à l'honneur dans Sans contrôle. On dira aussi un mot pour terminer de l'affaire Salah avec la demande incroyable de Cardiff et puis peut-être aussi du Stade Brestois qui, oui ou non, jouera un jour un match de Coupe d'Europe à la Beaujoire. On saura tout à l'heure.
Oh là là, c'est quoi ça ?
We are young.
Merci.
Oui.
Pas parce que c'est facile que c'est pas mérité. Ouais,
mais... j'ai un seul point.
We are young, c'est FUN. On commence avec cette Youth League, Jean-Marcel. De toute façon, c'est ton créneau. Les jeunes Canaries ont été sortis au tir au but en demi-finale à Nyon par l'Olympiakos. Tu y étais. Qu'a-t-il manqué pour aller au bout pour les Nantais.
Un peu de folie, un peu de tranchant dans les derniers gestes. En fait, c'est un résultat qui laisse beaucoup de regrets aux Canaries, beaucoup de frustration. Le paradoxe, c'est que c'est une équipe qui a parfois manqué de maîtrise dans ses matchs, mais qui a su les renverser sur un état d'esprit, quelque chose parfois
un fait d'arbitrage, d'irrationnel.
Voilà. Et là, en fait, elle a été, elle a vraiment gagné en maîtrise. Elle a eu une vraie emprise sur le jeu. On n'a jamais senti les Grecs, en tous les cas, en capacité de déstabiliser.
En première mi-temps, ils étaient vraiment dominateurs. Dans
mais ils
n'ont
jamais su
grec,
aussi. Il leur a manqué le petit plus, en fait, offensivement, qui font que les actions vont au bout. Il leur a manqué aussi un peu de souffle. On a senti une équipe qui, après l'ère de jeu, qui était vraiment à bout de souffle. Pour certains joueurs, ils sont rendus à près de 40 matchs. Pour certains joueurs, entre la réserve, les matchs amicaux, les sélections. Donc, c'est une équipe aussi qui est un peu dans le dur. Et tout ça a fait que le paradoxe, c'est sans doute l'équipe qui, moi, j'ai vu sur l'épopée, était sans doute la plus prenable.
Olympiakos. Ouais, parce que Copenhague sortent... avait l'air très au-dessus. Oui, et voilà, et le match.
Ils gagnent la Youth League. 3-0 ouais. Contre
Milan.
Voilà, ouais. 3 buts là, en 6 Milan. Minutes.
Ça laisse des regrets. Hein.
Ça laisse beaucoup de regrets. Écoutez la déception justement de Stéphane Moreau après ce 0-0 et cette élimination au tir au but en demi-finale.
Ce qui prédomine, c'est évidemment la déception. Ce qui est prêt d'obtenir une finale incroyable et pas la récompense au bout. C'est ça qui fait mal, c'est la frustration. Après, il y a aussi derrière, rapidement, un sentiment de fierté quand même d'avoir fait un match avec cette recherche-là, cette qualité-là, et c'est ce que je leur ai dit à la fin. L'idée, c'est de se servir de ces matchs-là d'axe de progression. Et évidemment que la gagne, elle fait partie de la progression, mais pas en faisant n'importe quoi. Et je suis content et très fier de mon équipe qui a respecté ce qu'on avait voulu faire dans le jeu. Voilà, il nous a manqué un petit brin d'efficacité pour marquer, pour être plus dangereux encore. Et voilà, c'est des axes de progression. Dans les bonnes zones, au bon moment, on a fait ce qu'il fallait pour se procurer des occasions. Il nous a manqué un peu plus d'intensité, d'agressivité et de timing dans les déplacements pour être encore plus dangereux. Mais on doit servir de ce match-là parce que c'est des matchs qu'on doit gagner.
Des regrets, mais aussi beaucoup d'enseignements pour le coach de ces jeunes Nantais. Demi-finale de Ligue des Champions quand même. Quel bilan on tire de cette épopée? Je vais faire le tour. Je commence quelques instants avec Jean-Marcel à nouveau. Quel bilan de cette épopée nantaise?
C'était inimaginable au départ lorsque le FC Nantes s'est engagé dans la compétition. C'est aussi une équipe qui sort. Vous avez deux voies pour accéder dans les phases à élimination directe, les phases finales. Vous avez la voie des phases de poule de Ligue des Champions où il y a les mêmes clubs, on va dire, que les équipes premières, mais ce ne sont pas forcément les plus gros centres de formation. C'est-à-dire qu'on doit, tu dois ta place à ton équipe première. Or, le FC Nantes, lui, sort de la voie des champions parce qu'il a été champion de France. Et là, par contre, tu rencontres des équipes qui sont champions de ton pays, qui sur le papier ne sont peut-être pas impressionnantes, mais en tous les cas ont une vraie légitimité et ont un vrai poids dans le pays. Je pense à Poznan ou Helsinki, par exemple. Voire Olympiakos, qui est issu aussi, je crois, de cette voie-là. Donc, on pouvait se poser aussi la question de la logique sportive ou de la réalité sportive, puisque c'est une catégorie de jeunes où les meilleurs jouent souvent dans les équipes premières.
Oui.
Sont pros, sont déjà dans les groupes pros pour certains.
On nous a souvent opposé ça, Jean-Marcel, à la performance des jeunes Nantais. On nous a dit parfois, oui, mais à Nantes, on fait jouer les joueurs à leur âge, alors que d'autres clubs vont surclasser les meilleurs d'une génération et vous ne les retrouverez pas en U19, ouais, alors, ils sont déjà en pro ou ailleurs.
Sauf qu'à la base, ce n'est pas forcément le même réservoir. C'est-à-dire que lorsque vous comparez les équipes du PSG, si on regarde il y a deux ans, il y a Warren Zaïre Emery, il y a Javi Simmons, il y a Garbi. Donc, c'est des joueurs aussi qui, en surclassement, c'est un peu plus facile de les surclasser que ce que tu as à Nantes. Et puis, on l'a vu sur l'Olympiakos, il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés, dont c'était le premier match, en tous les cas, en Youth League. Et le FC Nantes a sans doute manqué un peu de profondeur de banc.
Il a manqué Meupillou, il a manqué Zézé, il a manqué Apua, par exemple. Il a manqué
Timothée David, qui s'est blessé aussi pendant la compétition. Donc, il leur a manqué un peu de Joe. Enzo Mongo, surtout. Donc, c'est vrai qu'ils ont une charnière centrale qui est expérimentale, mais qui, pour le coup, a été plutôt performante. Après, je trouve que si on se pose la question de la valeur sportive de cette compétition, il ne faut pas se rappeler que c'était la 10e édition. Il n'y a qu'un club français qui allait au Final Four, c'est le PSG, dans lequel il y avait Rémi Descamps, Christopher Nkunku et Edson Edouard. Donc il y a une vraie réalité, en tous les cas, à arriver là à ce niveau de compétition-là, et c'est une vraie performance. On peut dire que c'est une vraie performance pour la formation
nantaise. Qu'est-ce que ça dit justement de la qualité du centre de formation, messieurs? Est-ce que vous vous dites... Nantes, finalement, ça cartonne au plus haut niveau européen, dans le top 4 en U19 de Ligue des Champions. C'est énorme.
Je suis un peu perplexe. J'ai suivi ça un petit peu à distance. Je sais pas si c'est si les meilleures équipes de chaque catégorie d'âge étaient représentées dans cette compétition. Donc déjà, ça nivelle pas forcément la compétition par le haut.
Mais ils étaient soit champions, soit leurs aînés étaient en Ligue des Champions. Hein. C'est les deux moyens d'accéder. Donc tu as quand même les plus grands clubs européens.
Si je me trompe pas, il y a eu 4 qualifications au tir au but au tour précédent pour Nantes.
Ouais, sur 5, en fait, c'est aussi l'autre paradoxe, c'est qu'ils perdent sur ce qu'ils en ont fait, leur spécialité.
Leur force,
ils sont battus.
Mais ça veut dire
il y a un peu de hasard aussi, forcément.
Quand même. Mais là, vous êtes dans les 4 derniers, mais ça veut dire que vous auriez très bien pu passer à la trappe beaucoup plus tôt.
Pour le coup, les regrets, ils sont pas sur la séance de tir au but. Ils sont sur le match que tu n'as pas remporté dans le temps réglementaire, où tu aurais dû le remporter.
Ce que je veux dire, c'est que si on retient que Nantes est dans les 4 derniers, et donc vraiment un cadre. Quand ça se joue 4 fois au tir au but sur 5 dans les tours précédents, je ne suis pas sûr qu'on puisse tirer autant d'enseignements que ça.
Il y a un peu de réussite, c'est vrai. On va retenir de cette épopée.
Olympiakos est passé 3 fois au tir au but.
On va retenir de cette épopée de l'engouement incroyable, David, autour de cette équipe-là.
C'est ce que je veux retenir, cet emballement populaire qu'il y a eu, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, contre Séville, il y avait presque 20 000 spectateurs à la Beaujoire. Ça veut aussi dire que ce club de Nantes est quand même un club à part en France et que les gens sont toujours attentifs à ce qui se passe à la formation. Voilà, c'est faut
très
le dire.
Attaché à la formation, à l'histoire de ce club. Bah, je trouve que c'est plutôt rassurant, je trouve, que les gens restent attachés à ces valeurs-là. Et c'est peut-être ça le plus bel enseignement de l'épopée. D'ailleurs, dans ce que dit Stéphane Moreau, moi, j'ai retrouvé un peu du Reynald de Nouex ou du Coco Solo, mais surtout le Reynald de Nouex. La gagne, oui, évidemment, c'est important, mais il faut savoir comment on s'y prend. Reynald de Nouex disait pas autre chose il y a 20 ans. Et ça, moi, je trouve ça plaisant de retrouver ce genre de discours dans la bouche des éducateurs nantais.
Et là, j'ai la voix de mon ami Loïc Folio qui résonne dans ma tête et qui me dit « Oui, tout ça, c'est bien beau, mais combien finiront pro ?» Et c'est ça qui m'intéresse.
C'est ça.
On va se poser cette question-là. Quels sont les joueurs de cette génération que l'on verra peut-être bientôt en Ligue 1 ? Écoutez Stéphane Moreau parler de cet avenir pour certains d'entre eux.
Bien sûr qu'il y a un espoir, mais surtout un espoir pour les jeunes de se servir de ce type de match-là pour continuer leur avancée. Ça, c'est plein d'expériences. Après, c'est clair, hein, la marche pour aller en pro, c'est encore une autre dimension. Mais c'est un bon atout, c'est un bon tremplin. Maintenant, c'est pas s'arrêter à ça. Ça, c'est une étape, mais c'est une étape qui peut vraiment être formatrice. Mais on sait que le passage demande encore beaucoup de travail. On l'a vu aujourd'hui sur certaines phases de jeu, qu'il y a encore beaucoup de travail pour certains à mettre en place pour acquérir et être prêt pour aller en pro.
Et là, je me tourne vers notre spécialiste qui était derrière la caméra face à Stéphane Moreau. Les auditeurs, ceux qui nous écoutent, se disent, bon, d'accord, lesquels ? Alors, lesquels ? Qui ?
Vous en avez déjà trois de cette génération-là. Vous en avez déjà trois de cette génération-là qui sont déjà intégrés dans le groupe pro, qui sont connus. Alors, Bastien Mepiou, qui lui est en reprise suite à une opération du ménisque, mais qui vient de changer d'agent et de passer dans l'écurie de Georges Mendes à un an de la fin de contrat. Donc, on ne sait pas s'il prolonge pas, s'il ne sera pas vendu cet été. Après, vous avez Nathan Zézé, que tout le monde a découvert au moins cette année, qui s'est installé dans le groupe pro sous Jocelyn Gourvennec et qui a une dizaine de matchs en Ligue 1 aujourd'hui. Et puis Strader Apois, qui est un 2004, qui est un peu plus âgé, qui lui aussi fait partie du groupe pro. Donc vous avez déjà au moins ces trois joueurs-là.
Ceux-là, on les connaît. Les autres ?
Après, c'est les joueurs dont on parle depuis à peu près 2 ans dans ce podcast-là. C'est à la fois Herba Girassi, si je prends la génération 2006, qui est un petit ailier qui a été formé à Angers.
C'est un attaquant.
Ouais, Louis Leroux, qui est un milieu de terrain dont on a beaucoup parlé, puisqu'il a été à la fois décisif, mais il s'est aussi révélé dans cette compétition-là. En tous les cas, il a franchi un palier, puisqu'on l'attendait aussi à ce niveau-là, qui est aussi un 2006, donc à qui il reste une année U19, qui est beaucoup sollicité aujourd'hui, notamment. Suite à ses performances.
Sollicité par des clubs extérieurs qui veulent le recruter.
Ouais. Donc après, pour eux aussi, c'est de bien doser, parce qu'ils ne sont pas forcément tous prêts à aller dans le groupe pro, c'est qu'en tous les cas, leur progression, elle se fasse naturellement et sans doute peut-être au rythme que souhaitait le club et que pouvait prétendre le club. Après, il y a un enjeu direct, c'est pour la génération 2005, puisqu'eux, ils vont rentrer dans le monde senior et effectivement, certains ne s'attendent pas spécialement à reprendre avec la réserve l'été prochain, mais plutôt avec le groupe pro. Donc je pense à Demen Tabibou qui était déjà dans le groupe pro depuis janvier, intégré par Jocelyn Gourvennec. Enzo Mongo qui lui est passé pro aussi, qui a un même contrat pro que Demen Tabibou, qui est passé pro avant sa blessure au genou. Alors malheureusement, il doit se faire opérer.
C'est fait les croisés. Hein,
voilà, il était du voyage à Nyon, il doit se faire opérer 7 semaines des croisés. Et puis le petit dernier qui est Malang Gomez, milieu récupérateur. Voilà, ça fait partie des joueurs les plus en vue. Après, on a eu aussi des bonnes surprises sur la compétition. Et dont la compétition. Alors, je pense à Luca Gauthier, le petit latéral gauche, que moi j'ai beaucoup aimé, y compris contre l'Olympiakos. Il avait été très fort contre Séville. Et je pense que lui a marqué des points, parce qu'on arrive aussi à perdre.
Il s'est révélé au plus haut niveau, dans les matchs qui comptent.
C'est ouais, ça mais il a montré pas mal de choses. Je trouve que c'est un latéral très dynamique, très agressif sur l'homme, et en plus qui est très bon dans le jeu combiné, qui est fort aussi dans les changements de rythme, qui est assez percutant, notamment lorsqu'il a beaucoup d'espace et le jeu ouvert devant lui. Et puis on a un joueur comme Tom Mabon, dont la. Alors, je ne sais pas s'il ira pro, parce qu'il y a un vrai débat sur sa taille. En fait, il y a deux choses. Il y a aller un jour dans le monde pro, jouer, avoir une carrière pro et jouer en Ligue 1. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'avoir une carrière pro. Et ce qui est sûr, c'est que lui, là, s'il y en a un pour qui la compétition a vraiment changé le destin et le regard, c'est Tom Mabon, qui avait démarré très tôt en équipe de France jeune à l'âge de 16-17 ans, qui s'était un peu perdu à Nantes, au point qu'il arrivait en fin de contrat cet été et il ne devait plus jouer, si ce n'est la Youth League, en renfort de la génération 2004, un poste de gardien qui était un peu déserté. Et lui, il a joué sa vie quasiment sur chaque match, parce que sa saison pouvait se terminer dès le premier tour contre Poznan. Et donc, il est sorti de vainqueur de 4 séances de tir au but, au point qu'il a retrouvé la réserve de la National 3 et qu'il est sur deux clean sheets aujourd'hui avec la réserve qui en passe de montée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 30 avril, les centres de formation devront se positionner pour dire qui il prolonge et qui il garde pas. Et Tom Mabon, qui arrivera en fin de contrat, devrait avoir une proposition, a priori, pour rester, notamment avec la réserve, voire après, peut-être... être vu si la réserve remontait en N2 et peut-être avoir une carrière, alors si ce n'est au FC Nantes, ailleurs.
Les 7 minutes 56.
Les plus assidus.
L'espèce de tunnel.
C'était hyper intéressant, David. Les plus assidus de nos auditeurs auront pris un petit carnet et noté Mepiyou, Zézé, Apea, Guirassy, Leroux, Tabibou, Mongo, Gomez, Gauthier et Mabon. Certains les feront peut-être rêver après, à la Beaujoire avec les pros dans les prochaines saisons.
Le gros souci, il faut le dire, c'est qu'on a maintenant Antoine Camboire qui est à la tête de l'équipe professionnelle et la communication avec le centre de formation, elle est minimaliste, pour ne pas dire autre chose.
Alors peut-être s'il y a maintien.
S'il y a maintien, Camboire reste. S'il n'y a pas maintien, Camboire reste.
Oui, voilà. S'il y a maintien, forcément.
S'il y a maintien, Camboire reste. Et est-ce que... Là, peut-être qu'il est...
Enfin, Combray est en capacité de rester s'il y a un maintien. Parce qu'après, tu sais bien que les feuilletons peuvent aussi nous réserver des...
Tu vas dire quoi ? Je vais attendre la suite.
Sur la fin de saison, je pense qu'il a autre chose à faire que de
s'occuper
de ses relations avec l'éducateur.
Je parle de l'été prochain.
On est à l'horizon 2-3 ans.
Sur la suite. Je me projette sur la suite. Moi, je me souviens de la réflexion d'Antoine Combray qu'on avait interpellé sur cet aspect-là, qui avait répondu « Vous verrez bien ». Si je suis le même ou pas. Parce que je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd le fait que son prédécesseur, Jocelyn Gourvennec, fonctionnait très bien avec les formateurs et qu'il va peut-être opérer une petite remise en question personnelle.
J'espère.
Je
ne
sais pas.
C'est toi le naïf, finalement. Bon, écoute, on verra comment Comboiré se comporte avec les jeunes. En tout cas, bravo à cette génération qui a donné un peu de rêve aux supporters nantais sur cette saison-là. On termine très rapidement avec deux infos. L'affaire Salah, Cardiff qui réclame 120 millions d'euros au FC Nantes. Qui veut en dire un mot ?
C'est indécent.
Appuyé sur des statistiques virtuelles, c'est-à-dire qu'aurait fait Cardiff si Salah avait été joueur de cette équipe, se serait maintenu, ils auraient eu des revenus liés à la Première Ligue. Enfin, il y a des statisticiens qui se sont amusés à faire ça. Et sur cette base-là, 120 millions d'euros, c'est ce qui réclame FC.
En un mot, scandaleux.
Non, et franchement, c'est...
Indécent.
Voilà, on n'a pas de mots pour parler de cette facture réclamée par Cardiff. Et on termine avec Philippe Audouin qui a bossé le dossier brestois, spécialiste du stade brestois aussi. Philippe, on a entendu dire que Brest allait peut-être chercher un club pour jouer l'Europe la saison prochaine. Les Brestois seront européens, on le sait, peut-être même en Ligue des Champions. Il y aura peut-être un tour préliminaire. Le stade ne le permet pas. 5000 places, a dit l'UEFA maximum. Le reste, ce sont des tribunes tubulaires. Ils n'en veulent pas. Il faut 8000 places pour jouer en compétition européenne. Donc, ce ne sera pas le stade Francis Leblay à Brest. Et donc, on cherche autour à Brest.
Alors, les dirigeants brestois, pour le moment, espèrent encore obtenir une dérogation. C'est très peu probable que l'UEFA cède et accorde cette dérogation. Ce qui veut dire que Brest va très vraisemblablement devoir chercher une terre d'accueil. Géographiquement, Brest, c'est loin de tout. Donc, c'est vraiment pas pratique. Déjà, ne pas jouer une première Coupe d'Europe dans l'histoire du club, dans sa ville, dans son stade.
C'est désespérant pour eux.
Je trouve que c'est terrible. Après la saison magnifique qu'ils sont en train de faire.
Est-ce que ça peut jouer d'ailleurs dans la tête des joueurs sur la fin de saison? Parce qu'on sent qu'ils sont quand même un peu dans le dur. Est-ce que ce problème de stade dont on parle beaucoup, est-ce que ça peut jouer, Philippe? Parce que la quatrième place, c'est aussi une place piégeuse.
Je ne suis pas sûr que ça impacte les joueurs Et que ça les empêche d'aller chercher
Ils sont moins bien depuis plusieurs rencontres, Philippe. Ils ont perdu les deux derniers, mais avant, c'était à l'arrache. À Lorient,
ils doivent perdre. Ils gagnent dans les dernières secondes. Et puis, tout a bien fonctionné. Tout a souri aux Brestois depuis le début de la saison.
On va parler du Stade Brestois à l'approche du match de Nantes, très certainement. Mais sur cette question de stade, pour revenir à Nantes et aux autres clubs.
Brest va devoir jouer la Coupe d'Europe dans un autre stade. Guingamp, c'est le pire ennemi de Brest. Donc, on voit vraiment mal Brest aller jouer au Roudourou la Coupe d'Europe, alors que c'est le moins loin, j'irais une centaine de kilomètres.
Oui, les supporters guingampais pourraient poser problème, par exemple.
Oui. Et puis symboliquement, ça serait terrible pour les Brestois. Lorient, il y a un peu moins de contentieux, et c'est, la deuxième...
Récemment, sur les 5-6 dernières années, c'était un peu chaud.
La rivalité la plus forte. Ouais.
C'était un peu chaud récemment.
Et oui, mais c'est parce que les deux sont en Ligue 1. Mais si Guingamp était en Ligue 1, je peux te dire que...
Ah, c'est sûr.
Je peux te dire que la rivalité Brest-Guingamp serait plus importante à tes yeux que celle avec Lorient. Lorient, donc c'est 150 km. Ça commence à faire, mais c'est quand même mieux que Rennes ou Nantes qui sont à 250 et 300 km. Vous vous rendez compte, les supporters de Brest, il va falloir qu'ils fassent 300 bornes ou 250 bornes pour aller à Rennes ou à Nantes.
Tu as appelé les directions de chacun des clubs pour RTL. Hein, tu as fait un sujet là-dessus. Alors, ça donne quoi?
Les dirigeants de Brest n'ont fait aucune démarche pour le moment auprès des clubs de l'Ouest pour trouver une terre d'accueil. Le président Le Saint a déclaré dans le Télégramme hier, on n'en est pas au stade de trouver une terre d'accueil. Sauf que le 15 mai, Brest doit donner une réponse. Est-ce que vous, sur quel terrain vous jouez? Donc... le temps presse.
Bah oui.
Et pour le moment, les dirigeants de Brest veulent vraiment argumenter en essayant d'obtenir une dérogation.
Ce sera sans doute pas la Beaujoire, on peut le dire. C'est compliqué d'imaginer parce que Nantes est trop loin, parce que peut-être qu'il y a aussi une rivalité, Jean-Marcel, avec les supporters entre Brest.
Oui, c'est un des arguments qui a été donné aujourd'hui sur des questions de sécurité. En fait, sans doute trop compliqué à mettre en œuvre des matchs à Brest ici, à la Beaujoire.
Mais on n'a pas de réponse.
Mais comme l'a dit Philippe, ils n'ont pas été officiellement sollicités. Donc,
les Nantais, oui. Pour l'instant, donc,
il n'y aura certainement pas de déplacement de supporters. Il y aurait pu avoir à Brest, au passage.
Pour cette même raison-là. La rivalité, ils vont nous faire un arrêté.
Oui, parce que les Brestois n'étaient pas à Nantes, d'ailleurs. Mais il y aurait pu avoir Concarneau, mais je crois qu'ils ont le même problème.
Ouais, ils ont un petit souci de stade. Concarneau,
le stade sera peut-être aux normes pour la Ligue 2 l'an prochain.
Ils ont joué
à
Rennes au Roazhon Park le week-end dernier. Un magnifique 0-0 contre Quevilly pour ceux qui avaient fait le déplacement au Roazhon Park. On se retrouve, messieurs, dans 15 jours. On va profiter de cette semaine de vacances. Pas de débrief de Montpellier, mais ce sera le débrief du match.
Non, puis il faut dire qu'il y a une petite pression parce que, comme c'est la fête des travailleurs, certains souhaitaient la respecter.
On bosse pas le 1er mai. C'est David Filippo qui était sur la barricade à réclamer ça.
Et le 1er mai, on est payé double. C'était trop cher.
C'est surtout ça.
Allez, au Lakers, on croise les doigts et on se retrouve dans 15 jours. Salut messieurs.
Salut.
Ah, Jean-Marcel, non, petite dédicace pour finir.
Ouais, parce qu'on se plaignait d'un déficit de créativité, en tous les cas, du FC Nantes sur le terrain, mais il y en a beaucoup chez les supporters, en tous les cas, de l'ingéniosité. Et je voudrais dédicacer le podcast à Steven et au Bûcheron. Ils se reconnaîtront, ils étaient en Youth League. Le Bûcheron en Suisse, de toute façon, c'est toujours venir avec un Bûcheron. et en fait, ils manquaient de moyens et donc ils ont écrit au maire de Nyon pour avoir des plans parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour loger. Et le maire a fait appel, leur a répondu très sérieusement avec un cahier des charges. Et il leur a fait appel et ils ont trouvé un viticulteur, le fameux Bois Bougie. Donc si vous voulez tous aller en vacances à Nyon, je vous conseille d'écrire. Et il leur a trouvé une tente sur laquelle ils ont pu loger et passer tout le week-end à Nyon. Voilà.
Bon, on les salue. T'as pas demandé à ton banquier de les héberger, non?
Je mélange pas, moi, l'amitié, tu sais bien. C'est un précepte de David Filippo, il me l'a transmis.
Allez, salut les amis.
Salut.
Sans contrôle, le podcast 100% digital.
Proposé par les rédactions de Ouest France, Presse Océan et It West.